Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique met l'éclairage sur l'Iran. Éclipsé pour cause de printemps arabe, la question iranienne refait surface en ce début 2012 pour des raisons qu'il convient à l'évidence d'analyser et au nombre desquelles figure un certain nombre d'échéances électorales parmi les acteurs directement ou indirectement concernés. D'où la tension, voire la pression entre d'un côté des autorités iraniennes qui menacent de bloquer le détroit d'Ormuz, de l'autre la crainte de voir Israël lancer une attaque surprise préventive contre les installations atomiques iraniennes et la décision de l'Union européenne cette semaine d'imposer un embargo pétrolier sans précédent contre l'Iran, le tout sur fond de campagne électorale en France, aux États-Unis et en Iran. Voilà la crise suscitée par le programme atomique iranien entré dans une période critique. Regard sur les partitions qui se jouent avec nos invités. Ils sont trois. Azadeh Khian, professeur de sociologie à l'Université de Paris 7 Diderot, chercheur au CNRS et auteur de plusieurs ouvrages sur l'Iran. Le dernier, l'Iran, un mouvement sans révolution, point d'interrogation aux éditions Michelon. Bonjour Azadeh Khian.
Bonjour.
Et par téléphone depuis Genève, Mohamed Reza Djalili, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, spécialiste des relations internationales et du monde turco-iranien, auteur également de nombreux ouvrages, dont Histoire contemporaine de l'Iran aux éditions Autrement. Bonjour Monsieur Djalili.
Bonjour.
Et depuis Bruxelles, Thierry-Antoine Kellner, chargé de cours au département de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et auteur avec le professeur Djalili de Histoire contemporaine de l'Iran. Bonjour Thierry-Antoine Kellner.
Bonjour.
Les sanctions décidées en début de semaine par l'Union européenne contre l'Iran, est-ce qu'elles vont, selon l'objectif recherché, resserrer l'étau financier occidental dans le but de convaincre Téhéran d'abandonner son programme nucléaire? Je vous pose la question, professeur Djalili.
Oui, je pense que les sanctions vont avoir quelques effets, mais probablement au début, ce ne sera que des effets économiques. Comme vous savez, ce sont des sanctions graduelles. Véritablement, ça va démarrer cet été, on pense au mois de juillet, mais déjà, le fait même de décider de prendre des sanctions sur le secteur pétrolier, qui est le secteur vital de l'économie iranienne, puisque 80% de ses revenus dépendent des exportations pétrolières, a eu des effets à Téhéran, où le rial, la monnaie nationale, a perdu en quelques semaines 30% de sa valeur. Donc, ces sanctions qui s'ajoutent à d'autres, il y a déjà les Nations Unies, les Américains, etc., font que les taux se resserrent et les pressions deviennent de plus en plus grandes. Mais pour le moment, ces sanctions pèsent plus sur la société et la population iranienne que sur l'État et le régime. Il faut voir ce qui va se passer dans les mois à venir, surtout au cours de l'été prochain.
Thierry Kellner.
Écoutez, moi je partage l'avis du professeur Djalili en ce qui concerne les effets économiques dont on va peut-être voir avec le temps qui s'écoule les effets qui vont sortir, je dirais. Mais il faut aussi bien voir qu'il y a des effets politiques directs, puisque c'est un message très fort que l'Union européenne a quand même envoyé aux autorités iraniennes en leur disant que maintenant il était temps de prendre les choses en main un peu plus sérieusement.
Azadeh Khian, dans quel contexte politique intérieure finalement s'inscrit cet embargo? Quelle est la situation économique en Iran? Comment va l'Iran aujourd'hui?
L'Iran va mal. Je pense que la situation économique n'a jamais été aussi désastreuse qu'aujourd'hui, puisque le taux de chômage augmente, l'inflation, la monnaie iranienne a perdu une bonne partie de sa valeur par rapport aux devises, donc notamment le dollar et l'euro, que du fait de ces sanctions contre le système bancaire iranien qui existait déjà depuis 2006, ils ont énormément de mal également à fonctionner, puisque c'est une économie essentiellement rentière. Mais pour ce qui concerne la décision de l'Europe concernant l'embargo du pétrole, je pense que ça ne va pas directement déboucher sur l'abandon du nucléaire iranien, puisque la décision revient au guide, la décision finale au guide, et notamment aux gardiens de la révolution qui ont maintenant la main haute depuis quelques années à propos du dossier du nucléaire. Mais ce qu'on constate, et c'est ça qu'espèrent les Européens, c'est qu'à travers ces sanctions, disons graduelles, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran vend son pétrole à l'Europe à la hauteur de 20% seulement. Donc les 500 000 barils par jour vont avoir un impact. Il y a un manque à gagner, bien évidemment. Mais en même temps, ça ne va pas aboutir à l'effondrement, si vous voulez, économique de l'Iran d'ici juillet. Hein.
D'autant que la Chine, l'Inde, le Japon ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de se joindre à l'embargo occidental, en dépit des pressions d'ailleurs de Washington.
Absolument, parce que les Chinois importent une bonne partie, 20% si ma mémoire est bonne, de leurs besoins pétroliers de l'Iran, et donc effectivement, ils n'ont pas encore trouvé de remplacement à cette affaire. Mais ce qu'on constate déjà, c'est que les mécontentements, y compris au sein d'un certain nombre de gardiens de la révolution, et non pas les moindres, existent déjà, hein, qui ont affaire d'une part à des conséquences économiques et financières des sanctions internationales décrétées depuis 2006 contre l'Iran par les Nations Unies, et d'autre part par les dérives autoritaires du guide Khamenei. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on a vu par exemple M. Alaï, l'un des anciens commandants des Pastarans, qui a attaqué le guide, qui l'a beaucoup critiqué et qui l'a comparé à l'autoritarisme du chat. Ce qui lui a valu bien sûr des manifestations orchestrées devant son domicile, une tentative de l'isoler. Mais ça n'a pas été le cas, puisque d'autres anciens commandants des gardiens de la Révolution l'ont soutenu, ainsi que d'autres personnalités conservatrice au sein de l'establishment actuel, ce qui montre effectivement que ces sanctions européennes ont lieu dans le contexte des luttes intenses entre, cette fois-ci, les conservateurs eux-mêmes, hein, qui ont en face d'eux maintenant de plus en plus le guide, hein, et non plus Ahmadinejad, puisque Ahmadinejad n'existe que parce que, quelque part, il a été beaucoup soutenu par le guide Khamenei. Donc, ces sanctions, effectivement, européennes cette fois-ci, mais internationales aussi, auront des conséquences, ou peuvent avoir des conséquences, disons, politiques importantes dans les mois à venir.
Il y a une vraie relation de cause à effet entre ces pressions extérieures et ce pouvoir iranien qui se fissure, d'une certaine manière, c'est ce que vient de nous dire Azadeh Khan, professeur Djalili.
Oui, tout à fait, je partage tout à fait ce point de vue. La situation à l'intérieur devient de plus en plus compliqué, surtout qu'il y a une échéance électorale dans 3 mois, au mois de mars, et ces élections parlementaires seront probablement boycottées par une partie de la population, ce qui est très gênant pour un régime qui se fait populiste. La raison principale de ce boycott, de ce désintérêt pour ces élections, c'est évidemment le fait qu'il n'y a plus aucun enjeu, puisque avant il y avait une sorte de petite alternance entre réformateurs et conservateurs. Maintenant, les réformateurs ont été éliminés pour la majorité, et donc c'est un jeu entre conservateurs. Et les difficultés des oppositions apparaissent aussi dans le camp conservateur, et les divisions sont de plus en plus profonde, parce que l'effet des sanctions, c'est que la vie est devenue de plus en plus dure, le régime a peur des réactions populaires, et donc nous sommes dans une année qui commence très mal et qui va se poursuivre sur cette tendance, à moins que l'Iran, par miracle, change de point de vue politique et commence à négocier avec ses partenaires occidentaux, ce qui pour le moment me semble pas très proche.
Alors, des divisions de plus en plus profondes, il est peut-être intéressant de s'arrêter quelques instants sur la façon dont le peuple iranien, le pouvoir, est-ce qu'il est uni face à la question nucléaire iranienne? Je pose la question aux uns et aux autres. Qui veut répondre? Peut-être Thierry Kellner?
Écoutez, on ne dispose pas réellement de sondages d'opinion, je dirais, à propos du nucléaire, mais il semblerait effectivement qu'un certain nombre de personnes, en tout cas, soutiennent l'idée d'avoir un programme nucléaire, en tout cas civil. C'est une question de fierté nationale, je dirais. Pour les Iraniens, maintenant, les conséquences, évidemment, de ce programme nucléaire se faisant sentir, on n'est pas quand même tout à fait sûr que l'opinion publique, à un moment donné, ne va pas se retourner, d'autant plus que je vous rappelle que cet été, il y a quand même eu un grave accident nucléaire au Japon, et que on voit que le nucléaire n'est pas non plus sans conséquence. Or, la seule centrale nucléaire pour l'instant qui fonctionne en Iran, donc celle de Bouchehr, est également située dans une zone sismique avec des conséquences qui pourraient être très graves pour le territoire iranien, mais surtout aussi pour les voisins, en fait, qui eux sont vraiment juste à côté, en fait.
Pour poursuivre sur les questions intérieures, Azadekian, je me tourne vers vous. On l'a dit, les réformateurs ont décidé de ne pas participer aux élections législatives de mars prochain, donc dans deux mois. Qu'est-ce qu'il en est du mouvement vert qui était né de la réélection en 2009, entaché de fraude massive du président Ahmadinejad?
Les deux principaux leaders du mouvement vert, à savoir Moussavi et Karoubi, sont toujours en résidence surveillée. Une bonne partie des organisateurs de ce mouvement ont été emprisonnés et restent d'ailleurs aujourd'hui en prison. Disons que le mouvement vert souffre de plusieurs problèmes, dont le problème d'organisation, mais aussi le fait que c'est un mouvement qui était essentiellement cantonné dans les classes moyennes des villes ou des grandes villes notamment. Et à mon sens, et c'est un petit peu l'objet aussi d'une partie de mon livre en tout cas, c'est d'expliquer pourquoi ce mouvement finalement n'a pas pu faire face à ce pouvoir, parce que il a eu du mal à s'étendre auprès d'autres groupes sociaux, notamment les classes populaires, qui sont également mécontents de la situation. Il ne faut pas croire que les quelques milliers d'Ottomanes, qui ont d'ailleurs largement perdu aujourd'hui leur valeur, qui reçoivent des mains du gouvernement, fait de ces couches populaires des soutiens inconditionnels de ce régime. Ça n'est pas le cas. Leurs enfants restent au chômage, ils sont très mécontents, mais disons, les leaders du mouvement vert, à mon sens, n'ont pas suffisamment fait pour se rapprocher de ces classes populaires qui, au début, participaient à des manifestations de rue, mais de façon individuelle et non pas organisée. Donc, le mouvement vert a besoin, de nouveau, que la société civile iranienne puisse se renforcer, puisque cette société civile est sous une attaque importante et a été largement affaiblie, afin de pouvoir de nouveau revenir, si vous voulez, sur la scène, ce qui n'est pas dans l'immédiat le cas. Dans l'immédiat, ce qu'on voit, c'est effectivement les tensions et les rivalités de plus en plus grandes entre différentes factions au sein même des conservateurs. Bon, la question pour le mouvement vert, c'est ça la question principale, c'est de comment profiter de ces tensions-là et de, si vous voulez, mise en questionnement du guide qui est fait nouveau de la part des personnalités importantes au sein des conservateurs et des ultras aussi d'ailleurs, et comment pouvoir profiter de la situation pour renforcer le mouvement vert afin de faciliter la transition de ce pays vers la démocratie sans effusion de sang, sans la violence, puisque c'est ça aussi qui menace ce pays compte tenu également de ce qui se passe au niveau régional. Mais je voudrais juste, si vous permettez, rajouter que, à mon sens, le nucléaire, contrairement aux années début 2000, n'est plus la devise du nationalisme iranien. C'est-à-dire que les Iraniens lambda voient bien que c'est un programme très très coûteux et que c'est un programme qui est en train de même détruire leur pays. Donc beaucoup de classes moyennes qui étaient auparavant fières de ce programme nucléaire civil aujourd'hui réfléchissent effectivement deux fois avant de dire qu'ils soutiendraient ce programme nucléaire. De là à dire qu'ils vont soutenir les assassinats d'un certain nombre de scientifiques nucléaires iraniens, visiblement par les services secrets israéliens, non. Là, effectivement, les Iraniens vraiment sont mécontents. Même les intellectuels iraniens de la diaspora ont déjà publié des pétitions contre les assassinats des scientifiques iraniens actifs dans le nucléaire.
Assassinats qui ont cours depuis quelques années et qui se multiplient ces derniers temps. Et Israël est montré du doigt sur ces questions, Azadekian.
Bien sûr, oui.
Un commentaire, professeur Djalili, sur ce qu'évoquait...
Je pense que le mouvement vert passe aussi par une période très difficile. Probablement, dans l'avenir, si cette mobilisation de la société civile dont parlait Mme Kian se réalise, ce sera un mouvement transformé avec des buts beaucoup plus précis. Vous savez, le mouvement à l'époque ne demandait que où sont passés nos votes et il demandait qu'on revoie les résultats des élections. Il est probable que si un mouvement civil s'organise vert ou pas vert, ce sera une contestation beaucoup plus profonde du régime. Je suis aussi d'accord sur la question du nucléaire qui est de moins en moins populaire, et on entend beaucoup du côté de la population iranienne que cette diplomatie de l'entêtement est très très coûteuse pour la société iranienne. Donc cette popularité prétendue de la question du nucléaire est en perte de vitesse. Les Iraniens ne veulent pas le nucléaire et avec le nucléaire disparaître, mais ils veulent vivre si nécessaire de se passer même du nucléaire, qui n'est quand même pas vital pour l'économie du pays, qui n'a pas un urgent besoin de l'énergie nucléaire, même si on laisse de côté la dimension militaire.
Donc le nucléaire de moins en moins populaire en Iran, finalement c'est un peu la nouveauté du sentiment qui prévaut dans ce pays et que sur lequel on avait du mal à apporter une évaluation. Pour poursuivre avec la question des élections donc législatives en mars prochain, tout le monde a en tête les élections présidentielles en 2013. Il est question de suppression de la fonction de président en Iran. C'est en tout cas quelque chose qui a été évoqué. Quelle lecture faire de tout cela, professeur Jalili?
Écoutez, ce qui est très intéressant, à partir de 2009, on a l'impression que le pouvoir, c'est-à-dire le guide en fait et son entourage des milices, ont peur du moment électoral. Il est évident que s'il y a des élections présidentielles en 2013, il n'y aura que des candidats qui ont l'aval du pouvoir. Ce n'est pas là la question. Mais que le moment électoral crée des conditions de contestation et fragilise le régime. Une des raisons pour laquelle cette idée de passer au fond à un président nommé par le Parlement, donc il n'y aurait pas de mobilisation populaire et d'élections et de votations, comme on dit en Suisse, à partir de là, on éviterait le risque d'une amplification de la contestation durant la période électorale. Je pense que d'ailleurs, même pour les élections parlementaires prochaines, ce n'est pas simplement les élections qui inquiètent le pouvoir, la non-participation des gens, mais surtout aussi que ce moment soit de nouveau un moment sensible qu'il faut absolument gérer.
Adadekian.
Oui, tout à fait d'accord. Je voudrais juste dire que depuis en tout cas 1997, puis 2001 et puis 2005, il y a eu aussi des présidents qui ont été élus qui n'étaient pas nécessairement les candidats du système, comme on dit. Et donc, il y a toujours pour l'élection présidentielle, si vous voulez, une surprise pour le régime. Enfin, ça c'est arrivé par le passé. Et puis en 2009, la surprise c'était que dès le premier tour, on sait qu'Ahmadinejad n'avait pas obtenu la majorité des voix, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont fraudé massivement les résultats, et donc ne voulaient pas effectivement refaire la même expérience. Mais si jamais ce projet d'élire le président par le Parlement est réalisé, cela voudrait dire, à mon sens, donner encore davantage de pouvoir au guide de la révolution, au détriment du président élu. C'est ça, en fait, le problème qui se pose.
Ce qui voudrait dire, pour l'Iran,
ce qui voudrait dire qu'on va vers complètement un régime monarchique, entre guillemets, c'est une monarchie autoritaire en la personne du guide de la révolution qui aurait tout le pouvoir. D'ailleurs, on constate que Khamenei est de plus en plus, comme je disais auparavant, critiqué par un certain nombre de conservateurs ou des gardiens de la révolution du fait de ses dérives autoritaires.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réaction venant de la population iranienne face à cette éventualité que vous évoquez, Azadekian?
Écoutez, là, pour le moment, ce qu'on constate, c'est que le débat n'est pas tellement étendu, même la presse iranienne n'en parle pas tellement. C'est une idée qui a été évoquée, mais sans plus, puisque pour le moment, il s'agit de l'échéance électorale de mars, donc pour les législatives. Et ça aussi, c'est inédit, puisque pour la première fois depuis la révolution, des factions de ce même régime, c'est-à-dire les réformateurs, ont décidé de ne pas y participer. Donc, effectivement, ce rituel électoral est en train de plus en plus de perdre de son sens. Il y a des appels aussi au boycottage des législatives, encore une fois, de la part d'une partie des factions auparavant au pouvoir dans ce même régime. Donc, ce qui montre que c'est un régime qui est traversé par des tensions absolument importantes et peut-être inédites depuis, encore une fois, la révolution. Cela s'ajoute, bien évidemment, on l'a dit, le contexte international, l'ensemble des sanctions qui sont en train de faire aussi leur effet sur le régime, qui effectivement est très menacé d'une implosion, je dirais.
Géopolitique, le débat, nous retrouvons nos invités Azadekian, Mohamed Reza Jalili et Thierry-Antoine Kellner dans quelques instants. À tout de suite.